C'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour et bienvenue dans l'émission du Sonolab sur JetFM 91.2. Julie Ozou est partie vers de nouvelles aventures et m'a confié le micro du Sonolab pour cette nouvelle saison. Je suis Laure Rodier et je suis ravie de vous présenter Morgane Grelet, notre nouvelle service civique. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Alors Morgane, je t'ai demandé un exercice très spécial à ton arrivée dans l'équipe, c'est de te plonger dans les archives du Sonolab depuis sa création en 2014. Tu en as eu tellement jusqu'au cou des archives que tu nous as concocté 3 émissions. Il y en aura une première cette semaine, une autre la semaine prochaine et une autre la semaine d'après, avant de commencer la diffusion de nos projets. On a intitulé ces émissions « Retour vers le futur » afin de retracer l'histoire de cette belle aventure radiophonique que nous poursuivons à présent. Est-ce que tu souhaites, Morgane, dire un petit mot de cette plongée dans les archives ?
Bien sûr, ça m'a permis de bien découvrir qu'est-ce que c'était le Sonolab et qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Et en fin de compte, en créant ces 3 émissions, j'ai essayé de montrer le plus de diversité de personnes. Ça peut aller au très petit jusqu'au plus grand. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes d'âges et toutes sortes de créations sonores et une totale liberté par rapport à ça.
Et donc, effectivement, c'est ce que tu as essayé de retracer dans les 3 émissions. Aujourd'hui, il va s'agir un petit peu d'expliquer ce qu'est le Sonolab, de présenter ce qu'est une fiction sonore et la poésie sonore. Voilà, Morgane a choisi de commencer par l'aspect vraiment le plus créatif du Sonolab, parce que c'est aussi la genèse du projet. Julie a fait beaucoup de projets de création radio vraiment fictionnelle. Voilà. Donc, le premier extrait que tu nous proposes, Morgane, c'est l'extrait de l'émission numéro 1 en 2014, où Julie présente en fait le Sonolab.
Exactement. Hein.
Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter cet extrait et on se retrouve tout de suite après pour en parler.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur JetFM 91.2 et vous écoutez Sonolab, une toute nouvelle émission pour cette rentrée radiophonique. Alors, Sonolab, l'atelier des sons pour être exact, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sur ce créneau, nous diffuserons des émissions, reportages, documentaires, des créations sonores, toutes sortes de choses qui ont été réalisées dans le cadre du projet d'action culturelle mené par JET. Alors, j'en profite déjà pour faire une petite aparté sur l'association JET, puisque ce n'est plus JET FM, mais JET depuis quelques semaines. En effet, l'association JET FM et l'association Histoire d'Onde, qui organisait entre autres le festival sonore, viennent de fusionner pour ne former qu'un et devenir JET. Et JET devient donc une association qui développe plusieurs axes autour de des arts radiophoniques. Donc évidemment, on retrouve la radio JET FM, mais aussi le festival sonore au niveau de l'événementiel qui a lieu donc tous les 2 ans et qui organisera sa 9e édition en avril 2016. Il y a ensuite également les formations professionnelles, plusieurs sessions ont lieu par an. Et enfin, l'axe qui concerne l'action culturelle. Les projets d'action culturelle, il y en a depuis assez longtemps à JET, mais il y a vraiment une volonté de développer ça, puisque l'association a fait le choix de créer un nouveau poste depuis février et donc d'avoir une personne à temps complet pour développer tous ces projets-là. En gros, c'est mettre en place des projets radiophoniques avec des structures, des établissements scolaires, de loisirs, des enfants, des adolescents, des adultes, leur faire découvrir le monde de la radio, les faire pratiquer, les mettre en situation pour qu'ils écoutent autrement et qu'ils fassent de la radio tout court et même de la radio autrement. Depuis assez longtemps, il y a des projets qui existent au sein de Jet ponctuellement. D'ailleurs, pour faire un petit peu d'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, Jet FM, qui est né en 1986, était un petit atelier pour les jeunes dans le centre social de la Bernardière. Donc c'est une proposition des animateurs de Saint-Herblain. Et petit à petit, avec le temps, ce petit atelier est devenu une vraie radio associative. C'est vrai que Jet n'a jamais oublié le rôle social et pédagogique que peut être la radio. Et donc depuis toutes ces longues années, ponctuellement, des ateliers radiophoniques étaient mis en place. Pour expliquer un petit peu plus précisément ce qu'est un atelier radiophonique, eh bien, en gros, toute structure, si elle le souhaite, peut faire appel à nous afin qu'on la suive et qu'on l'accompagne, enfin qu'on accompagne un groupe autour d'une création ou d'une pratique radiophonique. Alors ça peut concerner tous les âges, bon évidemment plutôt à partir de l'élémentaire, mais même à partir de la maternelle, on peut faire des choses. Et puis aussi, je pense aux personnes âgées, on peut également mettre en place des projets avec eux. Donc ça concerne toute structure qui est intéressée par la radio. Et après, on peut répondre aussi à tout projet, évidemment, si ça correspond à peu près à notre ligne éditoriale. Mais de toute façon, en général, on co-construit les projets ensemble. C'est-à-dire que on se met en relation. Donc soit c'est nous qui allons démarcher des établissements et les enseignants nous répondent, soit c'est des enseignants ou structures qui nous contactent directement. Et donc voilà, on essaie de co-construire un projet ensemble en fonction évidemment du budget, du temps imparti, du nombre d'élèves, etc. Donc on choisit un petit peu ensemble le fond, la forme, voilà, quelle forme ça peut prendre, est-ce que ça va être plutôt de la fiction, plutôt du documentaire, plutôt une émission journalistique, plutôt artistique, enfin voilà. Puisque ça peut être très large nos propositions, comme je viens un peu de vous le dire, là ça peut être vraiment quelque chose qui touche plutôt un axe journalistique avec la réalisation d'une émission, enfin donc tout ce qui va avec avant, évidemment, faire les interviews, les reportages, des micro-trottoirs si besoin, des recherches, écrire des textes, etc. pour mettre en place une émission avec un thème précis. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus artistique, avec vraiment un aspect créatif dedans, puisque ça peut être de la fiction ou même du documentaire, mais là où on va essayer d'avoir une écriture, une réelle écriture, que ce soit dans le fond ou dans la forme. En ce qui concerne le nombre d'heures, ça peut être très variable, de quelques heures à une quinzaine ou vingtaine d'heures pour aboutir à un projet. Évidemment, plus on a d'heures, plus le projet peut être ambitieux et sera abouti. Mais on peut aussi faire juste une visite des studios, une petite séance d'écoute, une discussion autour de la radio avec les enfants ou avec les jeunes. Ça, sur 2 heures, voilà. Ça peut être une première approche de la radio et puis après, vraiment réaliser quelque chose avec les élèves. Donc on passe, comme je vous disais, de l'écriture à la prise de son, au montage, à l'habillage sonore, choix des musiques, voilà. Je parlais de séance d'écoute juste avant, c'est assez important, voilà, on les met en condition d'écoute, de choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre en général, plutôt autour du documentaire ou petite forme voilà, radiophonique, notamment qu'on pioche sur le site d'Arte Radio, entre autres, pour aiguiser un petit peu leurs oreilles, qui sont quand même souvent très vite déjà formatées par les radios commerciales. Donc là, on va leur proposer voilà, d'autres choses et on va analyser ce qu'ils ont entendu, écouté ensemble. Et on va essayer de voir comment ils ont pu faire ça, dans quel contexte, etc. Et puis après, on peut... ou pas, hein, mais on peut s'inspirer de ce qui a été écouté pour réaliser quelque chose. Alors, dans ces projets-là, évidemment, il y a énormément d'aspects pédagogiques. Il y a le fait d'apprendre à s'exprimer, de pouvoir prendre la parole devant les autres, savoir qu'on va être écouté, même si le public n'est pas présent devant nous. On sait quand même qu'on parle dans un micro et qu'on va être écouté. Ce n'est pas quelque chose de forcément simple, mais qui développe vraiment la confiance en soi. Et également le fait de passer de l'écrit à l'oral, de pouvoir donner ses idées, puisque évidemment tout se prépare, on n'improvise pas devant le micro. Il y a le côté créatif, comme je disais, si on passe sur quelque chose de plus artistique, donc pouvoir, grâce à l'outil radiophonique, faire passer un rythme, des émotions, une histoire. Ça développe énormément l'imaginaire. Le fait évidemment de pouvoir traiter un sujet, donc d'argumenter, de trouver du pour, du contre, faire des recherches internet, donc plus pour le pendant journalistique. Le son, c'est aussi évidemment la matière première pour toutes ces personnes qui vont participer à ces projets. C'est un petit peu comme la peinture ou la palette d'un peintre. Donc, c'est prendre le son comme matière première et le travailler, le transformer, le manipuler pour arriver à quelque chose. Donc, on essaie toujours, évidemment, que ce soit quelque chose de ludique pour les élèves et qu'ils aient vraiment leur place là-dedans, que ce soit dans le choix aussi du fond et de la forme. Donc, tout ça, ça donne énormément de possibilités qu'on adapte, évidemment, selon l'âge et les compétences du public concerné. On a aussi tout l'aspect d'éducation aux médias et éducation artistique et culturelle. On sait que la plupart des ados ou pré-ados même sont consommateurs de radio encore aujourd'hui, mais que pour la plupart, ils vont écouter des grosses radios nationales commerciales et sont déjà formatés par la musique, la pub, etc. Et donc, il est important pour nous de leur faire écouter d'autres choses, de leur expliquer aussi le fonctionnement des radios associatives, leur rôle, et leur importance, notamment sur le territoire local. Faire de l'analyse de tout ça, c'est important pour pouvoir aussi décrypter les informations qu'on donne, décrypter ce qu'ils entendent. Donc il y a vraiment un rôle aussi d'éducation aux médias, enfin, qui est transversal à tout ce qu'on fait. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'en alternance avec cette émission, qui a lieu tous les 2e et 4e mercredis du mois de 13h à 14h, il y aura aussi une toute nouvelle émission, Média Culture, qui est proposée par les membres de l'association Fragile. Fragile, c'est un média culturel et social réalisé dans la métropole nantaise. Ils ont un journal en ligne, vous pouvez aller voir sur leur site. Et ils font beaucoup d'actions autour de l'éducation aux médias sur divers supports. Et donc, ils auront leur émission en alternance avec nous les 1er et 3e mercredis du mois. Donc, ce sera, je pense, assez complémentaire de ce que nous, on peut vous proposer. Évidemment, faire, c'est important, mais dans le fait de faire de la radio, ce qui est aussi très important, c'est d'être écouté et donc d'être diffusé, puisque c'est quand même la finalité de tout projet radiophonique. C'est pour ça que donc on a décidé de mettre en place ce nouveau créneau tous les 15 jours sur donc le 91.2. Et on diffusera donc tous les projets dans leur intégralité, mais ce sera aussi la possibilité que les jeunes et moins jeunes qui ont participé au projet s'expriment sur l'expérience qu'ils viennent d'avoir vécue, les difficultés qu'ils ont pu avoir, ce que ça leur a apporté, ce qu'ils pensent de leur réalisation finale. Donc voilà, ce sera un petit mélange de tout ça entre le fait de donner la parole à ceux qui ont réalisé ces projets et puis évidemment de diffuser.
Vous êtes bien sur Jet FM dans l'émission du Sonolab sur le 91.2. Nous venons d'écouter une archive sonore de la première émission réalisée par Julie Ozou en 2014, où elle explique en fait tout le projet, vous l'avez bien compris. Alors, quand j'écoutais, je réécoutais cette archive, Morgane, je me suis dit que le Sonolab avait vraiment fait du chemin. Et du coup, je vais vous donner des petits chiffres quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Donc, depuis 2014, le Sonolab a accueilli 3500 personnes et a réalisé plus de 1500 heures d'intervention. Julie Ozou a aussi beaucoup travaillé pour développer des projets avec des publics dits fragilisés. C'est-à-dire que voilà, on a intervenu dans des écoles primaires, des collèges, des lycées, mais aussi dans des IEM, dans des secteurs de pédopsychiatrie, en maison d'arrêt. Et depuis 2 ans, on développe beaucoup de projets avec des jeunes allophones et puis des jeunes migrants et même des exilés. Cette année, nous avons un projet d'atelier qui nous tient à cœur, qui sera un projet d'atelier à l'année pour les exilés avec entrée libre pour utiliser le média radio afin de pouvoir s'exprimer et aussi être écouté et entendu, avoir un peu une place dans la cité. Donc, nous remercions Julie pour tout le travail qu'elle a mené. Je tenais à préciser que certaines informations dans l'archive, du coup, n'étaient plus d'actualité. Alors, l'association Fragile existe toujours et elle aussi s'est extrêmement développée puisqu'ils ont embauché cette année un 3e salarié et développé des tas et des tas d'ateliers sur la question des réseaux sociaux. Je vous invite à aller sur leur site, mais ils n'ont plus d'émission. Sur JetFM. Et le Sonolab, du coup, a repris un créneau hebdomadaire, parce que vous voyez 3500 personnes, 1500 heures d'intervention, ça fait à peu près 50 projets par an. Donc, on a un créneau le mercredi et le dimanche à 11h. Le mercredi, ça permet de pouvoir écouter les projets à l'école avec les enseignants, et le dimanche à 11h, ça permet de l'écouter en famille. Voilà. Alors la nouveauté aussi de cette année et ce qui a été créé l'année dernière, c'est le site du Sonolab, un site dédié. Donc on a l'émission du Sonolab et en plus de ça, on a une plateforme de podcast où on peut réécouter tous les projets bruts sans le format émission. Donc pour aller les écouter, faut aller au www.sonolab.fr. Donc il y a toute la partie projet, toute la partie historique du Sonolab et aussi des ressources pédagogiques pour les enseignants.
Monsieur Harker, avez-vous fait bon voyage ?
Excellent,
entrez. La nuit est froide, vous avez besoin de vous reposer et de manger quelque chose. Venez donc que je vous conduise à vos appartements.
Oh, je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est que ce château ? Ça m'étonne guère qu'il ait jamais été vendu. Vivement que je puisse partir d'ici et recevoir ma bourse.
Je vous en prie, prenez place et soupez à votre aise.
Oui.
Mais vous ne mangez pas ?
Je n'ai pas très faim. Mais je vous en prie, régalez-vous, vous êtes affamé. Alors, monsieur Harker, savez-vous pourquoi vous êtes ici ?
Vous voulez revendre votre demeure, mais aucun des notaires envoyés par mon supérieur, monsieur Hawkins, n'était à la hauteur de vos exigences, m'a-t-on dit. J'ai entendu dire que toutes les maisons aux alentours trouvent acquéreur, mais pas la vôtre. Et personne ne sait pourquoi. Il y a un problème ?
Disons simplement que le voisinage, même lointain, n'a jamais été ma tasse de thé.
Et d'où vient cette discorde ?
Je ne saurais l'expliquer. Et comment vont vos collègues ? Certains ont déménagé dans les parages depuis leur visite ici, n'est-ce pas ?
Oui, on m'a dit que tous les notaires comme moi, qui sont venus vous voir, ont tellement pris plaisir à séjourner dans cette campagne pendant quelques jours, qu'ils s'y sont mis à y vivre. Marc, un ami à moi, est venu il y a quelques semaines déjà et s'est acheté une petite maison, apparemment pas loin d'ici. Mais vous le connaissez, n'est-ce pas ?
Oui, je le connais bien.
Ah oui, j'ai failli oublier. Voici une lettre que Monsieur Hawkins m'a donnée pour vous.
avez terminé? Vous êtes fatigué. Demain, vous dormirez aussi tard que bon vous semblera. Pour moi, je devrais m'absenter jusque dans l'après-midi. Dormez donc autant que vous en avez envie. Et faites de beaux rêves.
Impossible de me rendormir maintenant. Bon. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette lettre d'ailleurs? Il a fait une drôle de tête en la lisant. Et si j'allais jeter un œil? Cher comte, je vous remercie pour l'argent que vous m'avez envoyé la semaine dernière. Je tiens également à vous rappeler que notre petit marché me plaît. C'est pour cette raison que je vous envoie Jonathan Harker, cet homme dont je vous ai parlé dans la lettre que Marc vous a transmise lors de sa venue. D'ailleurs, je n'ai personne d'autre à vous envoyer pour le moment. Je vous conseille donc de le garder le plus longtemps possible. Vous verrez, c'est un garçon tendre. Il a le sang chaud, respire la jeunesse et la naïveté. Il m'a cru tout de suite concernant Marc et a accepté sans se méfier le travail que je lui ai proposé, en espérant qu'il soit à votre goût. Signé Monsieur Hawkins.
Je vous dérange, Monsieur Harker?
Dracula. Avec Mathieu Biscay dans le rôle de Jonathan Harker et Jean-Luc Guilbeault dans le rôle de Dracula. Réalisé par Jude Calès, Maëva Gonzalez, Owen Le Boudère, Mathilde Morloco et Aglaé de Guingamp. Merci à Madame Borin, à Florine Renard et à Sandrine Roblin, ainsi qu'au lycée Gabriel Guistot et Jet FM.
Alors donc, vous êtes en option cinéma, donc vous avez l'habitude de manier l'image, bon le son aussi, mais particulièrement l'image. Là, vous aviez une forte contrainte, c'était justement de ne pas utiliser d'image et d'utiliser que le son. Bon, déjà, est-ce que ça a été difficile?
Ouais.
Pourquoi?
Oui. Bah, parce que quand on travaille en cinéma, oui, on a plus l'habitude de travailler les images et généralement, on laisse le son un petit peu à l'écart, on se dit, bon, ça passe. Et puis finalement, c'est pas ce qu'on fait, ce qu'on a pu faire au niveau du son, c'était pas forcément énorme. Et du coup là, travailler juste sur le son, ça nous permettait de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude. Du coup, ça nous a un petit peu surpris. Et on a vu du coup tout ce qu'on pouvait faire avec le son et qu'on pensait pas pouvoir faire. Et du coup, c'était ça qui était difficile, c'était d'imaginer tout ce qu'on pouvait faire.
D'accord. Pour les autres?
Bah, nous, on est parti sur une ambiance plutôt urbaine. Donc, ce qui a été très intéressant dans le projet, c'est surtout de travailler sur le matériel et donc d'apprendre à utiliser le micro, quel micro on pouvait utiliser pour quel type de son, les ambiances, les sons précis, les voix et voilà, la stéréo, la mono. Enfin, c'était assez nouveau pour nous parce que à chaque fois qu'on faisait un projet avec images, on avait un seul micro. On se posait pas trop la question de quel micro on devait prendre et. Au final, c'était très enrichissant parce qu'on se dit que maintenant, on a beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de choses qu'on peut produire et rendre à l'image. Et ça donne une sorte de, de messages différents par rapport à ce que nous on veut exprimer. Et ouais, ça change complètement tout ce que nous on voulait faire transparaître par exemple à l'image. Et là, on l'a fait juste avec du son, donc c'était super intéressant, je trouve.
Un truc qui est intéressant, c'est que comme on est juste sur du son, on n'est pas obligé d'avoir le son qui est tiré. Par exemple, pour le métro, on n'est pas obligé d'avoir un son de métro précis. On peut le reconstruire autour. Par exemple, il y a un moment où on fait un son de check, on construit le son du check. Donc on peut nous-mêmes construire les sons, et c'est ça qui est aussi qui est intéressant. On n'est pas obligé de se baser sur quelque chose qui est réel au départ.
D'accord, donc il y a toute une part aussi autour de l'imaginaire, enfin, ou de reconstruction, de création à partir d'un son, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors du coup, c'est bien ce que vous avez répondu un peu à une autre question, c'est qu'est-ce que ça vous avait apporté et si vous avez trouvé ça intéressant. Mais finalement, vous ne m'avez pas trop parlé des difficultés, parce que j'imagine que vous en avez eu quand même pour faire vos prises de son déjà. Alors, parce que oui, il y a eu quand même plusieurs étapes, on peut le redire aussi, vous avez quand même d'abord écrit, enfin réécrit votre texte. C'était une première partie. Ensuite, vous avez donc été faire vos propres prises de son en extérieur ou intérieur. Et ensuite, vous êtes passé par une étape de montage pour construire tout votre projet. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui vous a posé difficulté ?
Je pense que pour nous, la grande difficulté, ça a été de... Au début, tout départ, c'était vraiment de réécrire. Parce qu'à partir d'une simple phrase, il fallait vraiment qu'on fasse tout et... fallait qu'on apporte des nuances, un peu de dynamisme à ce que nous on voulait faire. Et qu'on recrée, vu que ça se passe dans les années 90, fallait qu'on retrouve toute une époque dans ce que nous on voulait faire transmettre. Et vu qu'on n'est pas fort, on est né dans ces époques-là, mais on ne les a pas vraiment vécues, on n'a pas de souvenirs de ces époques-là, on a dû se référer qu'à des musiques, donc par exemple du groupe NTM ou Assassin. Et à ce que nos parents ont pu nous transmettre, par exemple, avec la culture, je sais pas, en faisant écouter des musiques, en regardant des interviews aussi, et nos professeurs qui nous ont aidés aussi à construire le récit. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais au final, on a réussi à s'y retrouver. Et après, pour ce qui a été de la prise de son, on a surtout eu des problèmes de matériel, en sens où on oubliait à chaque fois quelque chose, ou... On avait un peu de temps assez serré et on se trompait à chaque fois. Mais...
Il faut être bien organisé.
Ouais, voilà, c'est exactement ça et on avait un peu de mal.
Ok, les autres, vous voulez dire ?
Nous, en fait, on a surtout eu du mal, c'est au niveau des acteurs et au niveau de la caractérisation de nos personnages. On avait du mal à aiguiller vraiment nos acteurs, étant donné qu'il n'y avait que le son qui était important. Parce que, par exemple, quand on travaille avec des acteurs à l'image, il y a toute la partie où la gestuelle, tout ça, même si ce n'est pas très sincère au niveau de l'interprétation des voix, ça équilibre avec les gestes. Alors que là, du coup, c'était plus difficile et on a eu du mal à les rendre crédibles, nos voix.
Ah, c'est quelque chose de difficile, la direction d'acteur, ouais, c'est sûr. Mmh. Ouais.
Et pour nous, c'est aussi la direction d'acteur et je pense le montage. Direction d'acteur, parce que les acteurs ils sont complètement perdus parce que on les enregistre dans une toute petite salle et on leur dit d'imaginer en gros qu'ils sont dans un énorme manoir, donc je pense que c'est pas facile pour eux et donc aussi pour nous pour leur expliquer. Puis le montage, quand on découvre en fait que c'est qu'il nous manque plein de sons et que ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voulait, à ce à quoi ça ressemble.
Vous n'avez pas tout à fait fini, hein, je précise, à l'heure de l'interview, vous n'avez pas tout à fait fini vos montages, mais pour l'instant, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans toutes ces étapes ?
Moi, je parle pour le groupe de Joey. C'est surtout, en fait, ça nous ouvre un nouvel horizon, puisque avant, on s'attardait surtout sur l'image, puisque le son, c'était pas, on va dire, c'était pas la contrainte prioritaire. Et donc là, le son, s'attarder juste sur le son, c'est... On peut y accorder beaucoup plus d'importance et c'est une autre vision en fait de l'histoire qu'on peut offrir. Quoi.
Les autres, vous voulez rajouter quelque chose ?
Moi, je pense que ce travail sur le son, ça va aussi nous permettre, dans nos prochains projets, quand il y aura de l'image, de pouvoir plus approfondir le son, jouer sur les hors-champs, les volumes de son, tout ça. Donc, je pense que ça va nous resservir vraiment dans les autres projets.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir réaliser un court-métrage, c'est ça ? Qui va compter pour le bac ?
Oui.
Ok. Donc ça va... On espère alors, oui, que ça va vous servir tout ce nouveau rapport au son pour construire votre court-métrage. Le groupe Dracula, vous voulez...
Pas tellement par rapport à ce qu'a dit Marine. On est d'accord avec elle.
Après, c'était sinon ce qui vous avait le plus plu dans ce...
C'était de gérer en fait tout le volume, tous les différents plans. Bon, c'est pas encore finalisé, mais tout le volume, tous les différents plans de son et tout qui...
Donc au montage plutôt.
C'est ça, ouais. Ouais, le montage plus... Ouais.
Et oui, diriger ses professeurs aussi. Parce qu'on a dirigé notre prof d'anglais et notre prof de l'IT. Et ça, c'était drôle.
D'accord. Et alors, juste pour que les auditeurs se rendent compte, donc vous, vos projets, au final, ça durera à peu près, on va dire, en moyenne 5 minutes, le résultat de votre création, à peu près. Est-ce que vous avez une idée d'à peu près combien de temps vous avez passé, globalement, sur tout, montage, écriture, prise de son? Combien de temps ça vous a pris? Parce que vous avez travaillé aussi en dehors de vos heures de cours. Hein.
Je pense que une petite vingtaine d'heures.
Trente,
on n'a pas fini.
D'accord, donc un bel investissement quand même. 30.
Ouais. C'est ce qui fait tout notre premier trimestre, donc c'est vrai que et le début du second, on va dire. Donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant et vu que c'est un projet inédit dans tout ce qu'on a pu faire en 3 ans de cinéma au lycée, je trouve ça important qu'on s'y intéresse. Et vu que ça a pour objectif de nous perfectionner dans notre projet de type bac, je pense que ça les vaut le nombre d'heures passées dessus.
Et puis c'est aussi des heures qui sont pas non plus continues, quoi, parce que c'est des séances de deux. On doit passer environ sur une séance de 3 heures, on doit passer bien 2 heures, des heures à travailler dessus, donc c'est pas non plus des séances très longues. C'est quand même vraiment coupé entre prise de son et chaque séance de montage.
Ok, bon très bien. J'espère en tout cas que vous justement vous écouterez un peu différemment, mais c'est ce que vous avez l'air de dire maintenant, que vous avez un rapport à l'écoute qui est différent. C'était aussi le but de cet atelier. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, je pense que je peux parler au nom de tout le monde si je dis que ça a été très intéressant pour nous tous de travailler là-dessus, qu'on a beaucoup apprécié de travailler sur le son, quelque chose qui était très inédit, et que ça nous a tous apporté quelque chose pour notre film de bac, et que je pense qu'on pourra tous s'en servir tôt ou tard, prochainement, j'espère.
Et puis remercier nos profs aussi, quand même, ça serait gentil.
Et une dernière question quand même, vos créations vont être diffusées sur JetFM, et qu'est-ce que ça fait pour vous, ça c'est important ou pas plus que ce soit...
Du coup ça nous donne, comme on sait que ça va être diffusé, on essaye de donner le maximum et rendre quelque chose qui est de grande qualité, comme on l'aurait, on aurait quand même travaillé autant dessus si c'était juste entre nous pour un projet de classe. Mais ça nous donne une contrainte en plus et on a davantage envie de s'investir.
Ouais, ça met la pression en fait.
Oui,
c'est
la date butoir.
Ouais, avec la deadline, ça peut mettre la pression assez facilement. Et puis voilà.
Là, vous pouvez peut-être pas savoir, mais j'espère que vous serez fiers en tout cas de diffuser ce que vous avez réalisé.
Ouais.
Heureusement.
Oui.
Vous êtes bien dans l'émission du Sonolab. On vient d'écouter la deuxième archive de notre émission, Une retour vers le futur. Donc là, Morgane, tu as choisi une fiction sonore un petit peu, que je vais dire, du haut du panier. Parce que la plupart de nos projets, ils sont toujours très très bien, mais c'est vrai qu'en général, on intervient beaucoup en école maternelle, primaire. Et donc là, tu as choisi effectivement de présenter un projet du lycée Guistot où tu as été lycéenne.
Exactement. J'ai passé aussi mon bac cinéma là-bas et ça me tenait à cœur de choisir cette fiction sonore parce que on remarque bien qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on s'imagine quand on veut créer un projet et le résultat, et qu'il y a beaucoup de hasard dans cette création. Et j'ai trouvé ça super intéressant de les entendre.
Alors effectivement, il y a du hasard, mais ce qu'on a compris, c'est aussi beaucoup de travail.
Et oui.
Donc effectivement, au Sonolab, on prend beaucoup de plaisir, mais aussi on sait beaucoup de travail. Et souvent, que ce soit les lycéens, les collégiens, les adultes, les enfants en école primaire, tout le monde s'investit énormément. Et c'est un plaisir, en fait, voilà, de travailler pour ce résultat et pour vous, les auditeurs, parce qu'on entend bien ça quand même dans ce qu'ils disent, que le fait que ce soit adressé, eh ben, ça rajoute quelque chose en plus. Voilà, c'est pas faire pour faire. C'est faire pour les auditeurs. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale.
Oui.
Est-ce que tu veux expliquer comment on a choisi de faire nos pauses musicales pour ces trois émissions ?
En effet, alors, à la rentrée, on a découvert qu'on était toutes les deux allées en festival. Et donc, on voulait partager avec vous nos coups de cœur de cet été.
Alors, on va écouter quoi tout de suite ?
Rouge-gorge, que j'ai vu au festival Vision.
Tes cheveux sur le bord de ton oreille.
C'était Rouge-Gorge, les primes vertes des fossés. Vous êtes bien dans l'émission Retour vers le futur du Sonolab.
Merci Morgane pour cette sélection musicale. Alors on a découvert qu'on aimait toutes les deux Rouge-Gorge, qui n'est pas un groupe très connu. D'ailleurs, ce n'est pas un groupe, c'est un solo piano sur scène. Et je vous invite, ils passent en général le dimanche au festival Vision. En Bretagne, voilà, et c'est toujours une expérience à faire, je vous conseille. De toute façon, les morceaux de Rouge-Gorge se trouvent sur Internet et sur des plateformes d'écoute. Alors, pour passer à la suite, je ne vais pas beaucoup prendre la parole. Je vous dis juste qu'on passe à la question de la poésie sonore, parce qu'au Sonolab, on fait aussi de la poésie, et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc Morgane, toi, tu as sélectionné 3 extraits qui seront diffusés à la suite. Voilà, où on laisse encore une fois la parole à Julie, qui nous explique tout ça très bien. Et il y aura une petite illustration d'un projet qui a été fait en 2017.
Au Sonolab, et aujourd'hui, nous allons écouter la 3e et dernière émission du projet Poésie FM. En partenariat avec la Maison de la Poésie, la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique et Jet FM. Et pour cette dernière émission, c'est la 3e D du Collège Jules Verne de Nantes que nous allons écouter. Alors avant toute chose, je rappelle le principe du projet. Les élèves avaient donc 7 ouvrages de poésie contemporaine à étudier, répartis par petits groupes. Ils avaient chacun un ouvrage. Ils étaient accompagnés de Sophie G. Lucas, une poète nantaise, pour réaliser des notes de lecture, choisir des textes de l'ouvrage à lire et également créer leur propre création à la manière de l'auteur qu'ils étaient en train de lire. D'un autre côté, les élèves devaient aussi s'atteler à la préparation de l'émission radiophonique avec moi-même. Les élèves ont donc eu en tout 14 heures d'intervention entre les moments avec moi et les moments avec Sophie G. Lucas. Tout cela pour aboutir à la réalisation de cette émission littéraire et poétique.
Si je vous dis poésie, à quoi pensez-vous ?
Jean de La Fontaine.
Le corbeau et le renard et la cigale et la fourmi.
Ça me fait penser à Jean de La Fontaine parce que j'aimais bien lire des poésies de Jean de La Fontaine. J'avais même un livre sur ses fables.
Pour moi, la poésie, c'est un moyen de s'exprimer, mais avec l'art. Une façon de s'exprimer qui est plus belle que la normale.
C'est une forme d'écriture qui traverse le temps.
La poésie, en fait, ça me fait penser à un message qu'on voudrait faire passer. Mais pour pas le dire directement, on changerait un peu les mots pour le rendre plus poétique.
Pour moi, la poésie, bah, c'est ce qu'on faisait en primaire quand on passait devant tout le monde, on récitait une poésie devant tout le monde.
Ce que c'est, je sais pas vraiment, mais ça me fait penser à un festival de poésie, justement, que je vais voir tous les étés dans le sud. C'est à l'Odève, côté d'un lac, trop bien. Donc on passe 2 semaines là-bas, c'est paradisiaque. Il y a des auteurs qui viennent, qui... C'est dans la... C'est pas très grand, c'est une petite ville, et puis... Il y a dans la rue, il y a des gens qui disent leur texte. C'est sympa.
Bah moi, ça me rappelle quand j'étais chez mes grands-parents, ils ont un gros livre avec plein de poésies. Et des fois, je l'empruntais pour lire des poésies ou alors le soir, on lisait des poésies pour m'endormir.
Moi, ça me fait penser à la poésie de 2 pages qu'on avait dû apprendre en CM2. C'était sur... C'était Guillaume Apollinaire, et ça me fait aussi penser à Charles Baudelaire, parce que c'est le seul dont j'ai lu un livre en entier.
Ça me fait revenir des souvenirs de CM2, où en fait on devait réciter des poésies et on devait se mettre partout, il n'y avait pas une place obligatoire, on pouvait se mettre debout sur la chaise, c'était vraiment énorme, debout sur une table, on pouvait mimer, chanter, crier. Et je me souviens de tous les élèves timides qui n'osaient jamais se mettre à ces endroits-là et qui restaient immobiles.
Bah, moi je me rappelle surtout que quand j'étais en primaire, on me demandait d'apprendre beaucoup de poésie par cœur. Et quand t'avais un trou, tu te sentais pas bien. Quand t'étais devant toute la classe, c'était après compliqué pour reprendre. Ça fait très longtemps par contre que je n'en ai pas fait.
Ça me fait penser aux couleurs un petit peu et aussi au vent. Ça me fait penser aussi que quand j'étais plus petite, j'écrivais toujours des poèmes sur le vent ou sur les couleurs.
Je me souviens d'un livre qu'on devait lire en français et c'était un garçon qui faisait de la poésie que sur la neige et il voulait apprendre les couleurs.
Alors moi ça me fait penser à quand j'étais petite. J'apprenais toujours mes poèmes avec ma grand-mère et vu qu'elle était stricte, à chaque fois que je faisais une faute, je devais recommencer du début.
Je vais dire en espagnol parce que je parle un peu mieux. Para mí la poesía es muy padre. En mi escuela antes hacía concursos de poesía y me gustaban mucho porque eran muy chistosos y me inspiraron mucho para seguir en mi carrera de arquitectura.
Quand j'étais en CE1, j'avais un petit carnet Charlotte Fraise et j'aimais bien écrire des petits poèmes. Quand j'étais petite, je griffonnais des trucs et des petites phrases comme ça, ça n'avait aucun sens, mais j'aimais bien le faire. Je regardais sur internet ce qui rimait. Et j'avais lu devant la classe une fois un de mes poèmes que maintenant j'ai relu il n'y a pas si longtemps et que j'ai trouvé horrible. Et ça m'a fait tellement rire de me penser que j'avais lu ça devant toute la classe.
Ça me fait penser à justement moi qui récitais dans ma chambre en tournant sur moi-même. Et du coup, je passais un peu pour quelqu'un qui parle tout seul, quoi, parce que mes sœurs, elles entendaient, mais je parlais tout seul, quoi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Jet FM pour l'émission Poésie FM.
Nous sommes les élèves de la classe PEM, projet d'éducation aux médias, du collège Saint-Exupéry à la Montagne, pour vous présenter une émission dédiée au thème de la poésie contemporaine.
Vous allez entendre des lectures poétiques, une interview, des micro-trottoirs ainsi que des chroniques sur des auteurs étudiés en classe et nous finirons par un quiz.
Nous espérons que cette émission vous plaira et nous vous souhaitons une bonne écoute et on commence tout de suite avec le livre Petit-déj de Rémi Tchétchédo.
On est d'accord.
D'accord.
L'eau ça dégouline.
Ça passe par les bords du lavabo.
D'accord.
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 Mais aussi principalement ça fait mousser le savon.
Faut qu'on se lève.
Faut qu'on se lave à la douche.
Faut qu'on sèche à la serviette.
C'est trop de boulot sitôt.
C'est misère.
C'est galère.
Fin des douches à notre vie si propre.
Plus de gel douche.
Plus de savon.
Plus de gel douche.
Cessation de tout ça.
On verra bien postérieurement si ça fera plus de saleté.
On verra bien.
En attendant, cela nous fait moins de produits sur la peau.
C'est bien.
Ça libère en nous.
Ça nous rappelle que notre corps est pur.
Qu'il est une chose qui ne se lave pas.
Oui, oui, oui.
Qui ne se lave pas.
Non, non et non.
Il ne se lave pas.
Vous venez d'entendre un texte écrit à la manière de l'ouvrage de poésie intitulé « Petit-déj ».
Vous êtes bien dans l'émission du Sonolab. On vient d'écouter un extrait choisi par Morgane. Il s'agit de l'émission du 12 avril 2017. C'est un collège qui a fait, comme ils le disent, une émission sur de la poésie contemporaine. J'ai beaucoup aimé le petit micro-trottoir sur leurs souvenirs de poésie. Oui. J'avais pas imaginé d'ailleurs que des enfants pouvaient dire autant de choses sur la poésie. C'était très très beau. Moi j'ai bien aimé quand un dit que finalement... quand il a expliqué qu'il disait un texte de poésie tout seul et puis qu'en fait il parlait tout seul, alors qu'en fait non, il était en lien avec le langage en fait. Donc c'était très beau. Alors on arrive déjà au terme de notre émission. Juste le temps de vous rappeler qu'on se retrouve déjà qu'on est rediffusé dimanche, voilà, à 11h, et que la semaine prochaine on aura une deuxième émission, Retour vers le futur, où là il s'agira de parler un petit peu de parodies d'émissions, de projets qu'on fait avec le dispositif Courant d'art chez Ernest, au collège Ernest Renan à Saint-Herblain, et puis nous parlerons d'Écoloradio et nous reviendrons sur les fictions sonores en vous présentant des fictions sonores qui ont été faites en école primaire à Saint-Herblain et à Nantes. Voilà. Je voulais aussi rappeler, comme vous avez pu l'entendre dans les nombreux extraits, qu'effectivement, il n'y aurait pas de projet sans financement. Donc le Sonolab, effectivement, il y a des gens, ils autofinancent leurs projets, mais il y en a beaucoup qui ont vu le jour et notre activité a quand même pu se développer, notamment auprès des publics fragilisés, grâce à nos partenaires. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler la prochaine fois, mais c'est vrai que voilà, le conseil départemental, la DRAC, l'ARS, d'autres sigles que je ne sais pas très bien mais que je vais apprendre à bien dire dans les prochaines émissions du Sonolab, voilà, sans eux, il n'y aurait pas de projet. Donc c'est l'occasion de les remercier, même si je n'ai pas encore réussi à tous les nommer. Et c'est aussi grâce à d'autres associations partenaires. Mais ça, on en parlera dans les émissions prochaines. Je vous propose qu'on se quitte en musique. C'est Moody Beach, ça c'est mon coup de cœur de Binic. Mais par contre, c'est toi qui as choisi le morceau, Morgane.
C'est Vanilla de Moody Beach.
I'm
say enough. You're